Madame, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Scolaire de la Gakura, salut chers enseignants, merci d'être au rendez-vous de l'émission Espace Pilote. Nous restons dans la série des émissions IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. La présente émission fait suite à celle de la semaine écoulée. Si vous vous en souvenez, c'était à propos de la lecture expressive où la leçon qui a fait l'objet de commentaires avait l'objectif de corriger les erreurs d'intonation. Rappelons à vous tous, surtout à vous qui n'étiez pas à l'écoute ce jour-là, que la leçon avait été dispensée à l'école primaire de Rukimba, commune Rukimba de la province de Tana. Aujourd'hui donc, comme nous avons procédé pour d'autres émissions, nous abordons la deuxième partie de l'émission qui est plus théorique, mais portant toujours sur le même sujet, c'est-à-dire le sujet de l'intonation. Je voudrais demander à l'animatrice de l'émission d'aujourd'hui de se présenter à vous.
C'est moi, Barak Mazilimana, conseillère pédagogique de l'atelier de français au bureau d'études des programmes de l'enseignement primaire.
Merci, Madame Goretti. À la présentation de l'émission, Anne-Marie Kougayo, encore une fois, bienvenue. Je ne sais pas si j'aurais bien présenté le cadre. Peut-être auriez-vous des précisions concernant l'émission d'aujourd'hui.
Oui, l'émission d'aujourd'hui concerne l'intonation dans la lecture expressive, parce que la lecture expressive a chaque fois un objectif précis à poursuivre pendant la séance.
Est-ce que vous pourriez rappeler aujourd'hui, dans cette émission, l'objectif que vous visez? Quel message voudriez-vous peut-être donner à nos auditeurs, particulièrement aux enseignants?
L'objectif de cette émission, c'est de rappeler à tous les instituteurs en général et à ceux de cinquième année en particulier les fonctions de l'intonation dans la compréhension d'un message.
Lors de la descente à l'école primaire de Rukimba, nous étions ensemble, l'équipe des têtes des gradiens de la Gakura, et nous avons aussi une leçon de lecture expressive qui traitait de l'intonation. C'est vous qui avez choisi. Est-ce qu'il y aurait peut-être une motivation à cela?
Oui, nous avions choisi ce sujet parce que des fois nous constatons que des élèves commettent des erreurs d'intonation. Et ces erreurs, comme celles de prononciation ou de rythme, peuvent altérer le sens du message produit.
Vous avez choisi l'intonation, c'est comme vous auriez peut-être pu choisir une autre difficulté. Pourquoi un seul point concernant la correction des erreurs qui peuvent être commises lors d'une lecture expressive?
Nous avons choisi un seul point parce que dans une leçon, on ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs. On cible un point particulier sur lequel on doit insister pendant la leçon.
Si vous faites peut-être une comparaison par rapport aux autres points qui se traitent concernant la lecture expressive, est-ce que vous diriez que les leçons traitant de l'intonation sont plus difficiles?
Non, elles ne sont pas plus difficiles. Hein. Elles ne sont pas plus difficiles, mais souvent là, nous avons choisi de travailler sur l'intonation. Parce que si on donne une intonation qui n'est pas correcte à une phrase, l'auditeur ne peut pas comprendre le sens du message donné. Même pour la prononciation, si un mot est mal prononcé, il peut changer de sens. Nous avons traité l'intonation ce jour-là, mais nous pourrons dans la suite traiter les autres difficultés.
Mais si vous référez par exemple au sujet des interférences linguistiques, pour un enfant burundais par exemple, qui s'exprime en français, qui doit adopter une intonation française, est-ce que vous verriez aussi que là, il peut avoir des difficultés si vous tenez compte de l'intonation du Burundi?
Mais d'une façon générale, les élèves de 5e année ont peut-être des problèmes parce que même si vous apprenez le français à partir de la première année, en 5e année, c'est là où ils doivent maîtriser cette langue. Ils ont la difficulté de faire le transfert de ce qu'ils ont appris en langue maternelle jusqu'en 4e année.
Merci de la précision. C'est ce que peut-être nous avions aussi oublié de préciser. C'est que ces leçons que nous avons suivies lors de nos descentes, ce sont des leçons qui se donnent en 5e année parce que les enseignants qui ont été formés dans le cadre IFADEM, ce sont aussi des enseignants de 5e, n'est-ce pas?
Oui, ce sont les enseignants de 5e année qui ont été formés dans le cadre IFADEM.
Bien que ces émissions concernent aussi peut-être d'autres enseignants d'autres classes.
Oui, ces émissions ne concernent pas uniquement les enseignants de 5e année, parce que la lecture se fait aussi en 6e année, même en 4e année. Les enseignants qui nous écoutent peuvent en profiter aussi, même s'ils n'ont pas suivi la formation IFADEM.
Merci. Et revenons donc au sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui concerne l'intonation. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'intonation pour ceux qui peut-être parlent le français, mais qui n'entrent pas dans la grammaire française? Qu'est-ce que ça veut dire?
L'intonation est le mouvement mélodique d'une phrase, c'est-à-dire les montées et les descentes de la voix pendant la production d'un énoncé. Donc, on ne produit pas les mots sur un même temps, tantôt on monte, tantôt on descend.
Avec différentes fonctions, justement.
Oui, l'intonation a trois fonctions. Il s'agit de la fonction distinctive, la fonction démarcative et la fonction expressive.
Entendre ces termes distinctive, démarcative, expressive, si on n'est pas linguiste, si on n'est pas spécialiste de la langue, je crois que ce n'est pas toujours facile de comprendre. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications concernant ces termes-là?
Oui, l'intonation a une fonction distinctive parce qu'elle permet de distinguer à l'oral, c'est-à-dire en l'absence de marques syntaxiques, distinguer une phrase déclarative d'une phrase interrogative, impérative ou exclamative.
Qu'est-ce que vous voulez dire par marque syntaxique?
Par marque syntaxique, je veux dire la ponctuation qui permet les phrases. Donc, à l'oral, on ne voit pas si bien un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Mais on peut distinguer à l'écoute si on a une phrase déclarative, interrogative, impérative ou exclamative.
Alors, est-ce que vous pourriez donner des exemples précis pour que les auditeurs comprennent?
Je donne des exemples. Nous partons cet après-midi. Cette phrase est déclarative. Cette phrase donne une information. Vous avez bien compris que l'intonation est descendante. Nous partons cet après-midi. C'est une phrase interrogative qui demande une information. Vous comprenez bien que l'intonation est montante. Partons cet après-midi. La phrase est impérative et de bon en ordre. L'intonation est aussi descendante.
Pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas s'il n'y aurait pas de confusion entre cette intonation descendante de la phrase déclarative et l'intonation descendante de la phrase impérative. Comment est-ce qu'on peut sentir qu'il y a phrase déclarative, que l'on déclare, que l'on donne une information, ou alors que l'on s'exclame? Si l'on peut peut-être donner un exemple pour sentir justement cette descente qui diffère avec la descente d'une phrase déclarative.
Pour la phrase déclarative, j'ai dit nous partons cet après-midi. Nous partons cet après-midi.
C'est-à-dire que l'on descend à la fin.
À la fin. Mm-hmm. Et pour la phrase exclamative, partons cet après-midi. On sait que l'on commence par le haut et qu'on termine par le bas. Quel beau pays! On commence par le haut pour terminer par le bas.
C'est-à-dire qu'on sent que ce serait peut-être, comment dirais-je, plus mélodique pour la phrase exclamative. C'est l'impression que ça me donne.
Oui, pour la phrase exclamative, et c'est plus mélodique pour la phrase impérative.
C'était donc à propos des trois fonctions, la fonction distinctive, la fonction démarcative, la fonction expressive. Et vous venez d'expliquer la fonction distinctive avec des exemples à l'appui, et cette fois-ci à propos de la fonction démarcative.
Oui, cette fonction permet de marquer les frontières entre les groupes rythmiques lors de la production d'un message et par là donner du sens à ces différents groupes.
Madame Gorette, si vous pourriez nous rappeler, je crois que c'est un sujet qui, je ne sais pas si l'on aura peut-être déjà traité de ces termes dans une autre émission, qu'est-ce que vous voulez dire par un groupe rythmique?
Un groupe rythmique est une matière de sens dans une phrase. Donc c'est un groupe de mots qui a un sens dans une phrase. Donc pendant la lecture ou l'expression orale, l'élève doit marquer ces frontières-là pour justement donner le sens à ces mots qu'il prononce.
Pour peut-être préciser que l'intonation n'est pas seulement rendue par les marques syntaxiques, comme vous l'avez dit, les points, les virgules, les points d'interrogation, mais dans une même phrase, sans ponctuation même, on peut sentir que l'intonation change.
Oui, l'intonation n'est pas seulement marquée par la ponctuation. Elle est aussi marquée par le fait de délimiter les groupes pendant la production du message. Donc, on délimite les groupes en fonction du sens des mots qu'on est en train de produire. Parce que si on marque mal les frontières entre les mots, on risque de changer le sens du message.
Est-ce que vous pourriez là aussi nous donner des exemples comme vous l'avez fait pour la fonction distinctive?
Oui, je donne deux exemples. Exemple 1, Marie, Madeleine, Jeanne et Odette viendront nous voir. Ici, nous avons 4 personnes. Si le nom ne marque pas la frontière, il pourra dire par exemple, Marie-Madeleine, Jeanne et Odette viendront nous voir.
C'est-à-dire Marie-Madeleine comme un nom composé.
Il a prononcé Marie-Madeleine à la place de Marie et Madeleine.
Ce qui n'est pas correct.
Ce qui n'est pas correct. Ou encore, Marie-Madeleine et Jeanne-Odette viendront nous voir. Ce qui n'est pas correct. La personne qui écoute le message, pour la première phrase, comprendra qu'il s'agit de 4 personnes, la deuxième phrase, 3 personnes, et la troisième phrase, de 2 personnes. Si par exemple, il doit réserver des chambres pour ses visiteurs, vous comprenez bien qu'il risque d'avoir des difficultés s'il comprend qu'il s'agit de 2 personnes alors que c'est 4 personnes.
Est-ce que vous pourriez me donner un autre exemple?
Je donne un deuxième exemple. On donne un message à quelqu'un, un rappel, pas pour. Si le gars ne marque mal la frontière, il dira, arrêtez pas. La première phrase est interdite de tuer, tandis que la deuxième est invite à tuer à cause de sa peur de marquer la frontière entre les groupes. Vous comprenez bien donc que si le groupe et les ne sont pas respectés, le message est mal compris par l'auditeur.
C'est-à-dire que l'on peut comprendre de travers. Et nous arrivons à la troisième fonction, c'est-à-dire à la fonction expressive. Je ne sais pas s'il y aurait une différence nette avec les deux autres fonctions.
Oui, la différence en est parce que pour la fonction expressive, elle traduit la disposition psychologique d'un individu, c'est-à-dire l'état de cœur de l'individu. Ça peut être la joie, la déception ou l'impatience, par exemple.
Est-ce qu'on peut le sentir dans l'intonation? Est-ce que vous pourriez donner un exemple?
Oui, je donne un exemple. Si j'ai une quatrième, cette interrogation est une demande de confirmation. Mais si je change l'intonation de la phrase, ça peut exprimer la jalousie. Par exemple, si je dis, c'est j'aime que tu aimes.
Là, est-ce que tu pourrais me dire la différence entre les deux?
Oui, pour la deuxième phrase, il y a une sorte d'insistance pour le nom jeune, c'est-à-dire pour la personne aimée. Même si les deux phrases sont interrogatives, vous comprenez bien que l'intonation n'est pas la même. Pour la deuxième phrase alors, nous pouvons dire que la personne qui parle hein, de la jalousie.
C'est jeune que tu aimes, peut-être que cette fille-là qui pose la question ne voudrait pas que ce soit jeune qui soit aimée par la personne. Et on pourrait donc peut-être trouver un autre exemple pour confirmer justement cette différence au niveau de l'état d'âme quand vous prononcez une phrase.
Un deuxième exemple. Et on a un concours, c'est aussi une demande de confirmation. Ou alors, deux fois, mais en prononçant différemment la phrase, on peut exprimer l'étonnement. Là, l'exclamation au lieu de l'interrogation. Et cette phrase-là exprime l'étonnement. Et la réussite au concours, c'est l'étonnement. On ne s'attendait pas à sa réussite.
Mon fils a échoué.
Cette phrase marque la déception. Mais si on dit mon fils a échoué, c'est qu'on informe. On donne une information.
Voilà, ici on récapitule donc. Est-ce que vous pourriez brièvement résumer les fonctions de l'intonation pour que les enseignants en soient conscients lors de la dispense des leçons portant sur l'intonation, pour que effectivement on ne tombe pas dans les erreurs comme celle dont tu as parlé, pour que l'on comprenne ce que l'on doit faire lors de la dispense des leçons concernant l'intonation, pour que effectivement on ne tombe pas contre les trois fonctions que vous venez d'indiquer.
Oui, l'intonation a différentes fonctions, comme nous l'avons dit, et la fonction distinctive, démarcative, expressive. Alors, que doivent faire les enseignants? C'est qu'ils doivent être attentifs au moment de la lecture ou de l'expression orale, être attentifs à l'intonation faite par leurs élèves pour qu'ils ne changent pas le sens des messages qu'ils voudraient livrer. Pendant la dispense de leçon, les instituteurs doivent veiller à ce que les élèves respectent les différentes fonctions de l'intonation. C'est-à-dire qu'ils doivent, pendant la production de messages, différencier les types de phrases, donc faire une intonation appropriée pour que la personne qui écoute sache ça fait un bon point d'apparatage, exclamatage, interactive ou interrogative. Et la personne qui écoute peut comprendre le message en vrai parce que la personne qui donne le message a respecté le groupe rythmique. Vous avez bien compris que lorsque la frontière est marquée par le nombre de personnes personne qui s'exprime, le message est capturé. On peut comprendre autre chose. Alors, dans un certain temps, dans votre attentif, vous avez d'intonation car la pratique de la phonétique est liée à l'exploitation de l'expression orale. C'est donc une habileté à privilégier dans les cours de langue, car le sens d'un message ne dépend pas uniquement des mots employés, mais aussi de l'intonation et du contexte communicatif.
Il est arrivé dans ces descentes qu'on trouve aussi ces enseignants qui ne sont pas capables de bien distinguer, par exemple, la phrase exclamative et la phrase interrogative, ou alors qu'en lisant une phrase, l'enseignant ne marque pas exactement la fonction qui est exprimée dans la phrase, que ce soit l'étonnement, que ce soit la joie ou la peur. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être leur conseiller lors de la dispense des leçons qui porte sur l'intonation avec des exemples, des phrases qui contiennent effectivement des difficultés concernant l'intonation.
Tout enseignant devrait se situer dans son apprentissage. En fait, pour bien mener les leçons, il faut d'abord maîtriser la matière qu'on donne aux élèves. On ne peut pas corriger les erreurs des élèves si on commet soi-même ses erreurs. Si l'enseignant lui-même ne peut pas marquer l'intonation qu'il faut pour différencier les fonctions de cette intonation, il ne sera pas en mesure de corriger ses élèves. Il faut donc que tout instituteur puisse lui-même donner des modèles corrects aux élèves pour que ses élèves puissent faire une intonation appropriée.
Il ne faut pas que l'on se dise qu'une leçon de lecture, c'est simple, je vais devant, je vais lire pour les élèves, ils vont suivre.
Oui, il faut préparer chaque leçon. Mais aussi, nous savons qu'on exige une préparation à titre personnel, mais il faut d'abord préparer au moins mentalement chaque leçon. Parce que si nous n'avons pas préparé, nous ne pouvons pas avoir tout ce qui est possible pendant cette leçon de lecture et passive. Il faudra le tester comme le moment. Parce que cette leçon de lecture est spéciale et elle est un peu précis. Pour ce que nous avons un de nos préparés, c'est sur ces difficultés-là qu'on va parler sur des élèves. Il faut donc préparer, lire le texte et voir ces difficultés pour avoir les élèves. Pour cibler cette difficulté-là, on va surtout faire cette difficulté pendant la leçon. Évidemment, si on n'a pas préparé, on ne sait pas ce qu'on doit corriger pendant la leçon des élèves. On connaît le type de faute d'un problème, on connaît la prononciation, on connaît l'intonation en même temps, on connaît le rythme en même temps, alors qu'on ne peut pas poursuivre plus loin par une seule leçon.
En définitive, on comprend qu'on n'a atteint aucun objectif.
Si on poursuit plusieurs objectifs, c'est évident qu'on n'atteint aucun. Il faut donc être précis pour savoir ce que l'on recherche, ce qu'on veut garder pendant la lecture expressive. Nous avons remarqué que la plupart d'enseignants tâtonnent pendant sa leçon de lecture expressive, qui ne sont pas bien formulés d'objectifs, parce qu'ils disent les élèves doivent lire correctement le texte correctement sa langue. Il faut préciser si on cherche qu'il passe bien dans la maison, qu'il passe une bonne intonation, ou ce qu'on peut faire.
Merci, Madame Gorete.
Merci à vous, Madame Anne-Marie.
Je dis merci à vous tous, chers auditeurs qui étaient à l'écoute, à vous, chers enseignants. J'espère que vous avez bien compris que malgré les difficultés que vous pouvez avoir concernant l'intonation, ça peut arriver à n'importe qui, il faut prendre son temps de préparer consciencieusement vos leçons pour ne pas tomber dans les mêmes difficultés que les élèves lors de la dispense de la leçon. Il faut que vous soyez capable de produire une lecture modèle. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation de l'émission. C'était Anne-Marie Kouwayo. À la prochaine.
C'était l'émission Espace Citadel, réalisation Radio Scolaire de la Vacula en collaboration avec l'AIF.